Ciao,
Ciao.
voilà, mesdames et messieurs, vous avez écouté Raffaella et sa chronique sur la littérature. Et il y a quelques mois de cela, il y a eu aussi une jeune fille donc, qui a fait ses études à la Sorbonne. Alors, je voudrais rebondir, s'il vous plaît, sur cette question d'études. Quand on parle de Rome, de Tigane, de ces gens de voyage, on pense toujours qu'ils se déplacent, qu'ils partent, qu'ils reviennent, ils ont cet amour de la liberté, de ne pas s'attacher quelque part. Et donc ma question s'adresse aussi bien à la société civile que à l'administration. Comment vous faites pour assurer la scolarité des personnes qui voyagent tout le temps?
Je peux peut-être apporter quelques éléments de
S'il vous
réponse.
plaît. Concrètement, comment ça se
Oui.
réalise?
D'abord, je pense qu'il faut juste revenir sur deux éléments importants dans votre
S'il vous plaît.
présentation. On parle des Roms, et en l'occurrence, le débat sur lequel on a porté tout à l'heure, et notamment par l'intervention de Madame Le Dressé, porte sur les Roms migrants. Les Roms migrants ne sont pas des voyageurs. Ce sont des Roms qui ont quitté leur pays, pour des raisons qu'on ne va pas évoquer ici ce soir parce que ça serait trop long, qui sont en migration à la recherche d'une stabilité dans un autre pays, en l'occurrence dans notre pays français. Donc on a affaire à des populations qui sont d'origine sédentaire. Ensuite, vous avez utilisé la terminologie gens du voyage. Là, on parle de gens du voyage qui sont des voyageurs, donc qui vivent dans un habitat mobile, en l'occurrence une caravane, et qui se déplacent dans notre pays d'un endroit à l'autre. Là, effectivement, on est face à une forme d'itinérance qui peut, dans un cadre d'un projet pédagogique et d'une scolarisation, poser des difficultés parce que, effectivement, ce sont des enfants qui peuvent arriver 8 jours, 10 jours, 15 jours, 1 mois, 2 mois dans une commune et repartir aussi rapidement. Pour les Roms migrants, et Jean-Claude le disait en début d'émission, ils sont demandeurs d'une scolarisation parce qu'ils s'installent dans la durée. Donc ce sont deux éléments qu'il faut absolument dissocier, il me semble c'est important. L'autre élément sur lequel je voulais revenir, c'est sur l'intervention de votre chroniqueuse, Raffaella,
Raphaël.
qui dit que ce n'est pas une culture orale, c'est faux. C'est absolument une culture orale, mais ça n'empêche pas que l'oralité amène à l'écriture et notamment à des ouvrages tels que l'a fait Pisla, et c'est tant mieux, il faut le féliciter. Mais là aussi, il faut faire attention de ne pas faire de faux constats. Le peuple tzigane, la culture rom est une culture basée sur l'oralité, et ça c'est fondamental de le savoir.
Je me tourne vers Monsieur Mignot Germain, vous qui êtes représentant ici de Médecins du Monde, vous qui êtes constamment sur le terrain. Donc tout à l'heure, vous nous avez expliqué ce que vous faites concrètement. Aujourd'hui, vous avez la parole. Qu'aimeriez-vous améliorer qu'est-ce que vous auriez aimé que ce soit amélioré dans la situation des Roms sur le plan médical, etc. Vous pourriez avoir un discours vindicatif, par exemple, sur la question.
Sur la question médicale,
Médicale.
c'est assez facile vu que la majeure partie des Roms migrants aujourd'hui en France n'ont pas d'accès à la santé. Je disais, c'est assez facile puisqu'aujourd'hui la majeure partie des Roms migrants vivant en France sur des bidonvilles n'ont pas accès à la santé, alors que c'est des droits qu'ils peuvent débloquer. Il existe des dispositifs spécifiques pour des personnes étrangères, telles que l'AME, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, des personnes qui n'ont pas accès à ces droits-là, c'est nier des droits humains, juste par rapport à la santé. Après, il y a des dispositifs un petit peu spécifiques, tels que les PMI pour les enfants, qui peuvent exister. Sur l'amélioration, je crois qu'on ne peut pas juste améliorer la santé. L'OMS a fait une définition de la santé qui est un bien-être général. La santé, ça passe par ne pas tomber malade, savoir où aller quand on va chez le médecin, mais ce n'est pas que ça. C'est avoir un logement en dur sur sa tête, c'est avoir accès à de l'eau potable. Avoir aussi un réseau d'amis, ça passe aussi par là, puisque des personnes, si elles se retrouvent toutes seules, c'est être intégré, entre guillemets, alors j'aime pas trop ce mot, mais c'est en tout cas être dans une société qu'on a choisie et qui nous accepte aussi pour ce qu'on est. Donc voilà, la définition de la santé, pour l'améliorer, c'est vraiment sur des conditions globales. Du coup, moi, comme on peut discuter, c'est à nous la parole, j'aimerais revenir sur ce qu'a pu dire Marie-Dominique Dressé tout à l'heure sur sur l'espace 16. Voilà, on voit que ces dispositifs de villages d'insertion, de zones temporaires, c'est sûr qu'au niveau sanitaire, au niveau santé, on note une réelle amélioration.
même pour la scolarisation des enfants, pour les personnes, puisqu'elles sont stabilisées sur un terrain, avec la présence de travailleurs sociaux, avec des dispositifs qui peuvent directement passer, où c'est plus facile, un accès à l'eau, à l'électricité. Par contre, du coup, moi j'aimerais revenir là-dessus et qu'on puisse peut-être en discuter, c'est que ces villages d'insertion, moi ça me pose question parce que ça reste quand même un modèle qui reste discrétionnaire et où toutes les personnes ne peuvent pas être accueillies dans ces villages. Donc voilà, déjà ça pose question, c'est que c'est réservé à une minorité, il y a quand même des gens qui restent en marge. Et deuxième chose, moi qui me semble encore plus, voilà, à Tise, vous le savez, on circule aussi la nuit auprès des sans-abri. Aujourd'hui en France, on peut pallier, il y a un problème de logement. Et mettre en place des dispositifs spécifiques pour des Roms, pourquoi en fait, la question c'est pourquoi, alors qu'il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui vivent à la rue, qui ont des problèmes de logement, donc du coup aussi des problèmes de santé. Donc ça serait essayer d'avoir quelque chose de global au niveau de la société sur l'hébergement, le logement, qui soit de façon globale, mais en même temps, pas de dispositif spécifique pour telle ou telle population, puisqu'on voit bien avec les discours, c'est que il y a une communauté rome, mais il y a plusieurs ethnies. Et une famille rome de Bucarest ne sera pas la même qu'une famille rome de Timișoara, n'aura pas les mêmes attentes, ne sera pas sur des mêmes niveaux d'attente par rapport à sa migration. Donc voilà, je trouve que c'est des problématiques qui aussi sont extrêmement compliquées à discuter sur ces dispositifs spécifiques.
Effectivement, c'est un sujet qui attise les passions et aussi les interrogations. Et je pense qu'à la rentrée, nous referons une autre émission sur la question, donc nous reviendrons largement, encore une fois, sur ces questions. Et donc, Madame Marie-Dominique Dressé, vous voulez réagir par rapport à ce qui a été dit, très rapidement, parce que nous arrivons au terme de cette émission, donc nous allons faire un dernier tour de table. Donc vous voulez réagir, Madame, s'il vous plaît.
Ces questions que pose Germain Mignot, nous les posons bien évidemment avant de partir dans le projet de l'espace 16. On a mûri la réflexion et nous savons que c'est une réponse temporaire à un moment donné à une problématique qui est de masse. L'ouverture d'un village d'insertion, entre guillemets, tel que nous l'avons fait, nous l'avons conçu comme un moment de transit. Ça s'appelle un espace temporaire d'insertion. Tout cela pour dire que les personnes qui rentrent n'ont pas vocation à rester dans cet espace. Et ce que je disais, il y a déjà des personnes qui en sont sorties, il y en a d'autres qui sont arrivées. Donc c'est plutôt une espèce de passage qui permet d'apprendre effectivement l'espèce de cohabitation non choisie entre personnes qui ne viennent pas nécessairement du même territoire, de la même histoire. Et c'est aussi une façon d'apprendre à vivre dans un territoire qui est peut-être plus partagé que si on est dans son site isolé. Cela dit, la question de l'hébergement spécifique et communautaire n'est pas du tout une réponse adaptée. Nous en avons conscience et nous savons aussi que tout ce que nous faisons a vocation à durer le moins longtemps possible. Nous ne tenons en aucune façon à reproduire ce qui s'est passé dans un autre coin de la ville, au Neuf, avec le Polygon.
Merci beaucoup, Madame Dressé. Donc, à 20h51, très exactement, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette émission. Et comme vous savez, toutes et tous, que nous avons la tradition de terminer cette émission sur une note positive. Donc, nous allons faire un dernier tour de table. Je vais vous demander, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, de réagir très rapidement très brièvement donc, sur cette question, donc sur la question des Roms. Peut-on, s'il vous plaît, avoir un regard positif vers l'avenir en ce qui concerne la question des Roms? Donc, vous commencez, Madame Tsetseku Eleni.
Comme forcément, on n'a pas d'autre choix. Il faut être positif, il faut être optimiste. Il y a une nouvelle génération des enfants roms qui font des études. Il y a une société civile rome qui s'est créée partout en Europe. Il y a des politiques quand même qui osent aller contre contre le sentiment général qui est négatif par, envers cette population. Il y a une société civile non-rom qui travaille avec les associations roms, et il y a aussi des organisations internationales qui sont là pour veiller à ce que les États respectent leurs engagements, comme le Conseil de l'Europe.
Merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude Meyer. Très rapidement.
Oui, il y aurait beaucoup à dire du négatif, mais bon, puisqu'on a la fin, on va dire du positif aussi. Donc moi, je voulais dire simplement ceci, c'est que il y a un projet qui est porté par l'association Latiorum, et qui consiste non pas à faire des choses en faveur des Roms, des populations sans la difficulté, comme un petit peu on faisait, soi-disant, dans les colonies, quand la France avait des colonies, et en supposant que ces gens-là n'ont pas de connaissances, n'ont pas de formation, n'ont pas de métier, ce qui est absolument faux. Il y a des Roms qui ont des métiers, simplement ici, ils ne peuvent pas travailler, ils n'ont pas de logement non plus. Mais donc, nous avons un projet d'autoconstruction avec les Roms, et pour lequel Latiorum est prêt à collaborer, effectivement. C'est-à-dire, il faudrait simplement que la ville fournisse un ou peut-être plusieurs terrains, et que, avec un architecte, on a un projet très précis d'autoconstruction par les Roms eux-mêmes, qui ont déjà un savoir-faire, mais qu'on peut améliorer, y compris avec les techniques alsaciennes, pour avoir des maisons isolées du froid et du chaud, et avec des matériaux de très bon marché. Et en collaboration avec Emmaüs en particulier, il est possible de mettre en place des choses, et dans un rythme beaucoup plus rapide que ce que Mme Dressy propose, parce que son tableau est assez idyllique, et il faut savoir qu'il y a 3 personnes qui ont trouvé un travail à Strasbourg sur les 400 personnes qui sont ici, donc c'est d'une lenteur exaspérante. Donc nous, on se propose dès l'été d'autoconstruire avec les Roms un village dans des conditions économiques et non pas durables, parce qu'on sait qu'ils aient des logements finalement autres que ça, mais enfin, ce serait déjà mieux que le bidonville du cimetière Saint-Gall.
Merci beaucoup, M. Meyer. Madame Dressé, une dernière réaction pour terminer l'émission sur une note positive.
Je pense que les Roms ont leur destinée devant eux, qu'il n'y a pas de raison que l'image qui en est faite ici, très catastrophiste, perdure. Nous avons tous autour de cette table la capacité d'entrevoir un avenir plus serein parce que nous contribuons à le construire avec eux, et je pense que eux aussi auront une capacité à prendre un certain nombre de décisions, notamment dans leur pays d'origine, qui permettront à chacun de vivre différemment et selon leurs désirs. Aujourd'hui, l'Europe est en construction, la population rom est certainement la population la plus dispersée qui soit et la plus discriminée. Demain, si nous croyons à l'Europe, si nous voulons toujours l'Europe, cela changera.
Merci beaucoup, Monsieur Steinberger, très rapidement, président de l'Archerom.
Oui, très rapidement, pour dire qu'effectivement, nous croyons tous et personnellement à un avenir meilleur, et nous pensons très sincèrement, et je pense très sincèrement que demain sera meilleur, pour les communautés roms, quelles qu'elles soient. Pourquoi? Et je rejoindrai ce que disait la représentante du Conseil de l'Europe, Hélène Tsetsekou. C'est d'abord et avant tout parce qu'il y a une organisation propre aux différentes communautés roms qui sont en train de s'organiser depuis de nombreuses années. On n'en parle pas assez, depuis plus de 30 ans, 40 ans, un milieu aussi associatif qui se développe de manière extraordinaire. Il y a des projets extraordinaires qui existent à travers toute l'Europe. Et je finirai avec cette note aussi, dans le même sens qu'Hélène Tsetsekou. Pensons à cette jeunesse qui existe aujourd'hui, parce qu'on ne dit pas assez, mais d'abord et avant tout, la population rom, c'est une population très jeune, très très jeune, qui est aujourd'hui en grande difficulté, mais ces jeunes-là, à partir du moment où ils sont dans des projets à la fois pédagogiques, à la fois avec une dimension de citoyenneté, etc., on se rend compte qu'il y a derrière des débouchés extraordinaires, et l'exemple de cette jeune Rome qui arrive à la Sorbonne, moi je reste persuadé que s'il y a les conditions vraiment de réussite pour ces enfants, l'accès à la scolarisation, à l'éducation, bah, la société de demain sera une société dans laquelle les Roms auront un rôle très important à jouer.
Le mot de la fin, merci beaucoup. Et tout dernier mot,
rapidement, du coup,
très rapidement, s'il vous plaît.
Je crois qu'on peut être que sur une note positive quand on voit que c'est un peuple qui, depuis le 14e siècle, a subi les discriminations, des brimades un petit peu dans tous les pays du monde. Et quand on voit qu'aujourd'hui, avec quelle force ils arrivent encore à être présents dans toute l'Europe, c'est le premier peuple européen, véritablement européen, sans frontières.
qui arrivent à... voilà, on a vu les exemples, hein, avec des personnes qui arrivent à faire des études, qui continuent, et qui pourtant vivent dans des conditions assez désastreuses. Donc je crois qu'on peut être que positif, parce que ce peuple a une réelle force voilà, de pouvoir se relever malgré les difficultés.
En tout cas, merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Au plaisir de vous retrouver dans une autre émission, donc à la rentrée. Je fais juste une toute petite rectification de la part de notre chroniqueuse Raffaella, qui nous écrit pour nous dire que j'ai dit qu'on pensait à tort que la culture rom tzigane est exclusivement orale. Ma chronique visait justement à détruire ce stéréotype. Donc c'était très important de souligner. Je me tourne vers le président du CRE qui est avec nous, Serge Mondonga. Jeudi soir, il y a un débat sur le droit de vote des étrangers à la maison des associations.
Effectivement, Atis, merci de donner la parole déjà pour remercier l'ensemble de nos invités ici présents, hein, sur une question qui nous tient tous à cœur. On n'avait qu'une heure et c'est bien qu'on prévoit encore une autre émission sur la question puisqu'on ne pouvait pas épuiser les questions. Et ce serait vraiment avec grand plaisir que l'OCRE, dans le cadre de sa participation au mieux vivre ensemble au sein de la ville de Strasbourg, sera encore heureux de vous accueillir. Donc, comme vous le disiez, Atis, on a donc un débat sur la question parce que l'OCRE a plusieurs chantiers sur lesquels il travaille. La question des Roms aujourd'hui, demain, la question du droit de vote et d'éligibilité des résidents étrangers, qui est une question
qui a été... cheval de bataille du CRE.
Voilà, qui est l'un des chevals donc, des patients des CRE et donc du Conseil français de la citoyenneté des résidences qui, est bien évidemment, comme vous le savez, regroupe au niveau national toutes les villes ayant en leur sein un conseil des résidents étrangers. Et donc il y aura ce débat donc le 29 à la maison des associations. Nous invitons beaucoup de gens venir justement assister, poser des questions sur cette question du droit de vote et d'éligibilité qui est quand même une proposition du candidat Hollande, aujourd'hui devenu président. Plusieurs choses sont en train d'être faites par le gouvernement et nous espérons que la question du droit de vote ne sera pas oubliée et qu'elle aura toute sa place dans cette mandature.
Voilà. Donc, rendez-vous jeudi soir à partir de 19h30 à la Maison des Associations sur le droit de vote des étrangers. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre fidélité. Vous savez parfaitement que j'affectionne particulièrement un proverbe africain qui dit « Tout seul, on peut courir très vite. Ensemble, on peut aller très loin. » Donc, si nous voulons que les choses changent, alors conjuguons nos talents. Je laisse le micro à Mehdi qui va nous